Bien, bonjour à toutes et à tous. On a décidé que c'était moi qui commençais parce que je vais avoir un propos un peu plus général sur cette question chaude sur le pyjama. Alors, donc, moi, je suis psychiatre, mais je suis aussi au contrôle général et l'occupation de liberté. Donc, je vais d'abord vous présenter un petit peu ce qu'est cette institution, qui est une autorité administrative indépendante. Ça veut dire une institution qui ne dépend de personne, qui ne rend compte qu'à la Cour des comptes. C'est une institution qui a été créée par une loi du 30 octobre 2007 et qui a d'abord été dirigée par un conseiller d'État qui s'appelle Jean-Marie Delarue pendant 6 ans et ensuite par Adine Hazan qui est magistrate et qui donc qui dirige l'institution depuis juin 2014. Alors une autorité administrative indépendante donc qui ne rend compte à personne. À part à la Cour des comptes, indépendante, puisque le contrôleur général est nommé pour 6 ans. Son mandat est unique, donc c'est pour ça que M. Delarue est parti, n'a pas été renouvelé, et il ne peut être remercié par personne, donc ses propos sont libres, et ça garantit son indépendance. Alors, à quoi on sert? On sert à voir si les droits des personnes privées de liberté sont garanties dans tous les lieux où donc les personnes sont privées de liberté, aussi bien les hôpitaux psychiatriques que les établissements pénitentiaires, que les commissariats de police ou les brigades de gendarmerie, les centres éducatifs fermés, les centres de rétention administrative où sont mis les étrangers en situation irrégulière, les geôles des tribunaux, bon, je passe. Nous pouvons faire des visites annoncées ou des visites inopinées. On peut venir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, donc sans en prévenant ou en venant à l'improviste. On est venu par exemple 4 fois ici au Vinatier, j'ai été de 3 de ces visites. On est venu à l'unité médicale d'accueil, on est venu 2 fois à l'UHSA, 1 fois à l'UMD, voilà, depuis 2008. Alors, le travail qu'on fait, c'est de voir l'état, l'organisation et le fonctionnement des lieux. On rencontre tous les patients, soit à leur demande, soit on va vers eux, surtout pour les patients sans consentement, et on voit systématiquement les patients qui sont en chambre d'isolement, par exemple, mais on voit également, évidemment, tous les patients qui en font la demande, et on voit aussi tous les personnels, parce qu'on pense que les conditions de travail des personnels sont directement en rapport avec les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté. Il est clair que s'il manque des infirmiers ou des surveillants pénitentiaires, ça rejaillit directement sur les conditions de prise en charge des personnes privées de liberté. Alors, on est une équipe pluridisciplinaire, ce qui est une originalité par rapport aux autres mécanismes de prévention comme le nôtre. Il y a des mécanismes de prévention des droits fondamentaux dans tous les pays européens. L'originalité de la France, c'est que M. Delarue, quand il a créé le contrôle général donc en 2008, a fait le choix de recruter des personnes travaillant antérieurement dans les lieux de privation de liberté. Ce qui fait que au sein du contrôle général, vous avez des commissaires de police, des directeurs d'établissements pénitentiaires, des médecins, des magistrats, des personnes de la société civile, un général de gendarmerie. Bon, vous avez compris l'histoire, c'est pour ça que j'y suis. Dans les autres pays européens, vous n'avez que des juristes et vous avez, en tant que de besoin, ils font appel à des médecins ou d'autres professions. Donc on est la seule équipe pluridisciplinaire. Et quand on visite un lieu, il n'y a pas forcément la personne de la profession d'origine. Par exemple, moi, j'ai visité un commissaire de police sans forcément un commissaire de police ou un général de gendarmerie. Donc ça, c'est dans notre grande originalité. On a aussi un pôle saisine, c'est-à-dire qu'on peut le contrôle général, le CGLPL, peut être saisi par n'importe qui, contrairement à d'autres institutions comme le défenseur des droits. On peut être saisi par n'importe qui, c'est-à-dire un patient, un détenu, une famille, un avocat, une association, un soignant, un surveillant, n'importe qui peut nous saisir directement pour nous faire part d'une situation problématique. Là, récemment, par exemple, il y a une psychologue d'un établissement hospitalier qui nous a saisis pour nous parler de maltraitance dans l'institution où elle travaille. J'ai pris cet exemple parce que c'est un des derniers qu'on a eu, mais alors essentiellement ce sont des personnes détenues ou leurs familles qui nous saisissent, mais on a des gens, évidemment des établissements sanitaires. On a 4000 lettres par an, évidemment plus on a de lettres, plus le délai de réponse est important, mais on a maintenant institué un accusé de réception pour bien que la personne qui a écrit sache qu'on a bien eu sa lettre et qu'on va y répondre dans les meilleurs délais. Alors, on a été, on a un site qui est le cglpl.fr, et sur ce site, vous avez les rapports annuels, parce que comme toute autorité administrative indépendante, on doit écrire un rapport annuel. Celui de 2015 est sorti il y a 8 jours. Et on a sur ce site, donc, outre les rapports annuels, on a tous les rapports de visite des établissements que nous avons visités. Donc si vous allez sur ce site, vous verrez les rapports concernant notamment les visites du Vinatier, mais évidemment toutes les visites que nous avons effectuées depuis 2008. Nous avons également les avis que nous écrivons par thème, et puis nous avons les recommandations, et je suis heureuse de vous dire qu'il y a une recommandation qui est sortie hier sur le centre psychothérapique de l'Ain à Bourg-en-Bresse, donc qui concerne un hôpital psychiatrique sur lequel nous avons eu des recommandations en urgence concernant le fonctionnement de cet hôpital psychiatrique. Donc tout ça c'est sur notre site cglpl.fr. Alors on est assez connu sur en ce qui concerne les vêtements. Il y a des gens qui sourient quand on parle de vêtements au cglpl, parce qu'il y a trois objets, vous allez voir pourquoi je dis objets, qui sont un peu emblématiques du contrôle général. Ce sont les soutiens-gorge, les lunettes et les pyjamas. Alors les soutiens-gorge et les lunettes, ça concerne les commissariats de police, parce que depuis 2008, monsieur Delarue, qui était le premier contrôleur général, a beaucoup insisté sur le fait que les personnes en garde à vue se voyaient retirer systématiquement leurs soutiens-gorge et leurs lunettes, y compris quand elles passaient, alors pendant qu'elles étaient dans la cellule de garde à vue, mais aussi quand elles passaient ensuite devant un magistrat. Et donc, il considérait que c'était une atteinte à la dignité de passer devant un magistrat sans lunettes et sans soutien-gorge, évidemment pour les femmes. Et donc, on est un peu connu sur ce sujet-là et sur le pyjama. Donc, ça me permet évidemment d'arriver sur le sujet de ce colloque d'aujourd'hui. Mais pour nous, c'est pas, ça fait sourire, mais pour nous, ces trois objets, ces trois vêtements, enfin, les lunettes, c'est pas un vêtement, mais enfin, ces trois objets sont pas insignifiants, parce qu'ils constituent pour nous, le titre c'est atteinte à punition, enfin est-ce que c'est une punition, pour nous c'est plutôt une atteinte à la dignité. Le retrait, c'est enfin la mise en pyjama ou le retrait du soutien-gorge ou des lunettes, c'est une atteinte à la dignité. Alors un mot sur la description du pyjama. Tout à l'heure on a vu des pyjamas dans une intervention précédente. Alors essentiellement il est fourni par l'hôpital. Alors, ce que je vais vous dire maintenant, c'est les constats qu'on a faits à travers toutes les visites. J'ai oublié de vous dire qu'on fait 150 visites par an, et que donc, quand on vient en visite, on reste 4-5 jours, et que le nombre de contrôleurs est adapté à la taille de l'établissement qu'on visite. Donc, tout ce que je vais vous dire maintenant, c'est issu des visites qu'on a faites depuis 2008. Alors, le pyjama, il est essentiellement fourni par l'hôpital. Alors, le problème, c'est que parfois, il y a des tailles qui manquent. Donc le pyjama, et ça on l'a vu assez fréquemment, n'est pas adapté à la corpulence du patient. Et parfois il y a un sentiment diffus d'étrangeté, d'inconfort, et donc il n'est pas rassurant. C'est très rarement ceux du patient qui, lui, est vécu, le pyjama du patient est vécu comme rassurant. Et on a vu très récemment, on a visité un hôpital le mois dernier, on a trouvé que c'était une pratique très intéressante, j'en parlais avec mon voisin à l'instant. C'est que là, on demande aux patients de venir, quand c'est une hospitalisation programmée, de venir avec son pyjama. Et quand ce n'est pas une hospitalisation programmée, on demande soit à la famille d'apporter le pyjama, soit les infirmiers font une visite à domicile pour récupérer le pyjama du patient. Donc dans 100% des cas, c'est le pyjama du patient dans cet hôpital. Et ce sont des patients qui sont admis sous contrainte ou admis en soins libres. Donc ce sont les mêmes patients que partout ailleurs. Nous avons pensé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Mais j'insiste sur le fait que c'est vraiment fréquent qu'on n'ait pas la taille correspondante et que du coup, on voit les patients habillés n'importe comment. Alors, quels sont les cas d'utilisation du pyjama que nous avons observés, encore une fois, dans nos constats? Alors, évidemment, d'abord, la chambre d'isolement, que d'aucuns appellent la chambre de soins intensifs, mais ça, c'est un autre débat et nous allons publier dans un proche avenir un rapport sur cette question-là. Donc, utilisation du pyjama en chambre d'isolement. Deuxième utilisation en période d'observation, ça a été dit ce matin à la première intervention. Sauf que la période d'observation, il était dit ce matin que ça pouvait être 3 jours. Je crois que quelqu'un a pris la parole pour... Je crois que c'était un médecin qui a dit 3 jours. Sauf que nous, on a vu assez fréquemment que cette période d'observation pouvait durer 15 jours. Et cette période d'observation était pour tous les patients, y compris ceux admis en soins libres. Alors effectivement, sur prescription médicale, comme ça a été dit ce matin, avec téléphone, visite et toute la suite des prescriptions, mais parfois 15 jours. Troisième cas, les patients admis sous contrainte comme modalité de surveillance. Quatrième cas, pour repérer un malade fugueur, même en soins libres. Donc voilà. Cinquième cas, alors là, je dois dire la vérité, ça a été une seule fois. Je sais très bien où c'est, je ne le dirai pas. Mais bon, pour repérer tous les malades, c'est le médecin qui m'a dit ça, et les distinguer des soignants. Donc le médecin m'a dit, voilà, moi je ne connais pas mes malades. Je jure que c'est vrai. Je ne connais pas les malades, donc je les mets en pyjama, comme ça je les repère des soignants. Sans commentaire. Et je l'ai vu qu'une fois, mais je le cite quand même. Bon, et le sixième cas, ça c'est assez fréquent, pour sanctionner les patients indisciplinés. Bon, qui ne respectent pas le règlement intérieur, par exemple qui sont allés fumer, qui veulent aller fumer au moment où il ne faut pas fumer, et ainsi de suite. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On voit des patients circuler en pyjama dans les unités, alors avec leur pyjama parfois pas à leur taille, voire à l'extérieur, par exemple pour se rendre à la cafétéria. Donc on voit des gens en pyjama, hiver comme été, donc parfois par exemple ce matin il faisait quand même pas très chaud, là ça s'est un peu amélioré, et ils sont en pyjama, sans forcément une veste au-dessus, et ils vont à la cafétéria. Alors nous on dit que soit ils ont droit d'aller à la cafétéria, à ce moment-là ils ont des vêtements civils, soit ils n'ont pas le droit d'aller à la cafétéria, et à ce moment-là ils restent en pyjama, ça c'est déjà encore un autre problème, mais ils n'ont pas le droit de sortir, à ce moment-là, voilà, vous avez compris. Alors, pour aller plus loin, ça c'était donc des constats. Nous, on pense que le pyjama, de manière excessive, c'est une atteinte à la dignité, et ça touche aussi un autre droit, qui est un droit fondamental, qui fait partie de notre compétence, c'est le droit d'aller et venir. Alors, l'article 16 du Code civil, qui est la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, dit « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci, garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Le Conseil constitutionnel, dès juillet 1994, lors de l'examen de cette loi, a considéré que c'était un principe de la dignité humaine comme principe à valeur constitutionnelle. C'est-à-dire que la dignité humaine est un principe à valeur constitutionnelle. Et après, en 2002, le Code de la santé publique, dans l'article 1110-2, dit « La personne malade a droit au respect de sa dignité ». C'est la première fois que ça a été intégré donc directement, non pas par une loi, je dirais, indirecte, qui était la loi de 1994 relative au respect du corps humain, qui était, un peu indirectement, là, l'article du Code de la santé publique dit donc la personne malade a droit au respect de sa dignité. Seulement en 2002, hein, c'est quand même assez tardif, comme on disait un peu ce matin. Alors nous, au contrôle général, dès 2008, je vous rappelle que le contrôle général est né en 2008, donc dans le rapport annuel 2008, on a déjà abordé cette question-là, page 105 et 106, on l'a réabordé dans le rapport annuel 2014. On considère donc que c'est une atteinte à la dignité, que c'est parfois une atteinte à l'intimité quand le pyjama, comme ça a été dit ce matin, dévoile des parties intimes qui ne devraient pas l'être. C'est aussi une stigmatisation, parce qu'on désigne les malades admis sans consentement, ce qui n'est pas forcément... puisque seuls, dans certains cas, ces malades-là sont en pyjama et pas les autres. Ça a parfois un impact dépersonnalisant pour certains patients qui n'ont peut-être pas besoin de ça, ils sont déjà suffisamment mal. Et alors nous, ce qu'on a entendu, alors peut-être que votre étude ne dira pas forcément ça, mais on a beaucoup de patients qui ont été entendus par les contrôleurs, disent vivre ces pyjamas comme une humiliation. Voilà, donc vous voyez, pour nous, il y a plusieurs donc droits qui sont touchés par cette histoire de pyjama, la dignité, l'intimité et le droit d'aller et venir. Donc on est quand même sur des choses qui dépassent largement le sourire qui entraîne l'idée du pyjama. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est que le port du pyjama soit strictement proportionnel à la nécessité des soins requis qui se justifie seulement à l'admission pour une durée brève et pour les périodes où le patient est mis en chambre d'isolement, sachant que l'histoire de la chambre d'isolement sera reprise, encore une fois, dans un rapport sur ce sujet en avril 2016. Voilà. Je vous remercie.
Donc Nicolas Majme, donc je suis psychiatre sur le Vinatier, responsable du secteur de psychiatrie adulte de Villeurbanne au sein du Pôle Est, donc chez le professeur D'Amato. Voilà, alors déjà merci aux organisateurs de la journée, voilà, de nous avoir permis de présenter ce travail qui a été fait donc sur l'établissement. Il faut dire d'ores et déjà que c'est un travail qui a mobilisé les trois pôles de psychiatrie adulte et plusieurs unités donc de l'établissement. C'est pas du tout un travail qui a vocation à être définitif ni à poser des réponses à je pense un problème qui est extrêmement complexe et qu'on peut aborder vraiment de différentes manières, mais en tout cas je trouve que c'est vraiment une des portes d'entrée qui est intéressante parce que ça permet de faire une photographie à un moment donné. Et je trouve que c'est une bonne manière d'utiliser la démarche qualité. Puis on a la chance en plus d'avoir Laurent Beaumont, et c'est vrai que la méthodologie est assurée, donc on a plus qu'à laisser libre cours à nos questions. Alors pourquoi ce travail le pyjama? Alors c'est parce que déjà nous avions fait un travail préalable, mais alors qui avait concerné que le secteur de Villeurbanne à ce moment-là. Sur la liberté d'aller et venir. Alors, on ne va pas du tout présenter le travail ici. Si certains sont intéressés, on pourra tout à fait leur faire parvenir la photographie que nous avions faite au sein donc, du secteur. Et donc, effectivement, notre envie était d'explorer justement tous ces domaines de privation de liberté dont pouvait faire l'objet un patient qui est hospitalisé donc en psychiatrie. Et donc, effectivement, il nous est apparu assez naturel de travailler sur la question du pyjama. Alors pourquoi on a fait un travail qui était au niveau de plusieurs pôles? Parce que le choix donc, de la méthode de démarche qualité qui a été retenue, c'est celle de la revue de pertinence. La revue de pertinence, c'est finalement vous confronter un petit peu ce que vous pensez être une explication au port du pyjama lors d'un petit brainstorming où chaque participant dit le port du pyjama par exemple je le justifie comme ça. Et donc effectivement lors de la première partie donc sur la liberté d'aller et venir, comme nous étions tous du même secteur, finalement c'était assez cohérent qu'on retrouve un peu les mêmes justifications.
Tout était pertinent.
Voilà, tout était pertinent. Donc on s'est dit comme forcément c'est nous qui avions posé les indications, finalement on s'est aperçu que nous n'étions pas désorganisés, ce qui était rassurant cliniquement. Donc l'idée c'était vraiment de dire il y a plusieurs services, il y a différentes pratiques, on va voir effectivement s'il y a une forme de cohérence dans la justification finalement du port du pyjama, qui est quelque chose que finalement on n'apprend nulle part dans nos études, hein, que ce soit des études infirmières, aides-soignantes, médecins, quand on est dans le milieu somatique, effectivement j'ai pas notion que ça pose beaucoup de questions, alors qu'effectivement pour ceux qui vont encore à Édouard Herriot de temps en temps, je sais pas si vous avez vu les pyjamas, mais enfin c'est assez dramatique, hein, ça laisse quand même effectivement tout apparaître, mais pour autant j'ai pas l'impression que ça pose autant de questions que ça peut les poser en psychiatrie. Et c'est vrai que depuis la réforme de la loi de 2011 sur les hospitalisations sans consentement et l'intervention du juge des libertés, c'est vrai qu'eux-mêmes ont pointé une fonction du pyjama que nous, on n'avait pas forcément perçue avant, hein, qui est clairement, pour certains juges des libertés, qui est du côté de l'incarcération, du port des vêtements qu'avaient les détenus dans les années 70, et notamment, on a un juge des libertés qui apparemment avait beaucoup œuvrer pour vraiment que cette méthode cesse. Et c'est vrai que pour lui, le port des pyjamas là en psychiatrie vraiment lui rappelle ce fonctionnement. Et puis, effectivement, au travers maintenant des CRUCPEC, hein, donc des commissions de relations avec les usagers, voilà, il y a beaucoup de familles qui se questionnent un petit peu, voilà, quelle est la fonction de ce port du pyjama. Et je dirais que de manière commune avec un certain nombre de nos patients, la question de la punition quand même ressort beaucoup. Hein, c'est vraiment vécu comme étant quelque chose, voilà, qui est là pour punir les gens, pour les stigmatiser. Voilà, donc c'est un petit peu, voilà, tout le sens un peu de ce travail qui, encore une fois, hein, je le répète, hein, n'est pas du tout, n'a pas de vocation à répondre aux questions. Bien au contraire, c'est vraiment probablement pour en poser, pour essayer aussi nous de, j'irais au niveau soignant, peut-être d'être un peu plus transparent sur nos pratiques. Et voilà, et donc c'est un petit peu ce travail-là que je vais vous restituer. Alors d'abord, en vous faisant un petit peu le profil du patient qui porte le pyjama sur le vinatier. Ensuite, les justifications retrouvées pour le port du pyjama. Et puis ensuite, nous avons donné la parole aux patients. Donc, alors, je ne pourrais pas tout énumérer, hein, ce n'est pas possible. Hein, il y a plus de 52 patients concernés. Il y a un document qu'on pourra tout à fait vous remettre pour ceux qui sont vraiment intéressés. Vous pourrez lire voilà, tout ce que les patients ont pu répondre sur le port de ce pyjama. Mais voilà, on va essayer de faire ressortir à travers des statistiques, enfin, ce n'est pas des statistiques, mais à travers des pourcentages, un petit peu le vécu des patients par rapport au port du pyjama. Et puis après, je vais vous présenter une petite sous-population qui nous est apparue durant les trois premières fois où nous sommes réunis pour faire cette photographie, qui sont les patients qui portent volontairement le pyjama, parce que finalement, on a été un peu surpris, en fait. J'avoue que c'est venu de nos trois premières rencontres, et donc on s'est intéressé à cette sous-population. Sous-population, pas en termes de jugement, hein, c'est une population à l'intérieur d'une autre. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vais vous restituer là. Ouais, d'accord. Voilà, donc comme je vous disais, il y a eu trois enquêtes. 5 unités de psychiatrie adulte donc, ont été concernées. Donc les trois pôles de psychiatrie adulte donc, sont représentés. Le port du pyjama a représenté 52 patients concernés, ce qui veut dire que si on prend le nombre total des patients hospitalisés sur ces 5 unités, ça fait quand même 20% des patients hospitalisés, donc ce qui n'est pas négligeable en termes de phénomène. Alors, ce qu'on peut dire, hein, je ne vais pas vous détailler tous les chiffres, hein, si vous les voulez, vous pourrez les retrouver. Nous, ce qu'on a pu un peu déduire de ces chiffres, c'est déjà de dire qu'il y avait une certaine cohérence, c'est-à-dire quand même que dans la grande majorité des cas, le pyjama était prescrit avec la privation d'aller et venir, c'est-à-dire qu'on était... Enfin, on essayait en tout cas, on n'était pas à 100%, mais enfin, dans une grande majorité des cas, il y avait quand même une cohérence, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans « je prescris le pyjama » tout en laissant le patient aller dans le parc. Parce que c'est vrai que c'est voilà, enfin, moi, c'est quelque chose qui me paraît toujours un petit peu incohérent. Mais encore une fois, c'est toujours pareil, c'est difficile de répondre comme ça de manière très générale, parce qu'il peut toujours y avoir une, deux exceptions qui viennent voilà, contredire ce phénomène plus général. Mais enfin, de manière générale, on peut dire quand même que le patient qui a le pyjama est privé d'aller et venir. Donc ça veut dire qu'il est plutôt dans une phase d'observation, plutôt sur un temps de crise. Et puis, pareil, quelque chose quand même qui nous a rassurés, c'est que la grande majorité, pas la grande majorité de ces patients, au contraire, aucune modalité d'admission finalement ne faisait ressortir un facteur de risque de porter le pyjama. C'est-à-dire que les patients soient connus, pas connus, qui passent par les urgences ou qui soient admis directement, on retrouvait à peu près la même répartition. Ce qui veut dire quand même que le parcours de soins du patient ne préjuge pas du port du pyjama, parce qu'effectivement on se disait ben, est-ce que finalement par exemple le patient qui est admis par les urgences, qui n'est pas connu d'unité, du coup est-ce que un peu systématiquement il se retrouve à porter le pyjama?
Il y en a 21% de libre quand même.
Il y en a
21% de libre.
Oui, alors tout à fait, mais on verra après quand même que dans les justifications le risque suicidaire est très fort dans cette population-là. Donc effectivement, on retrouve, effectivement, comme vous le soulignez, des patients en hospitalisation libre. Mais quand même, pareil, la grande majorité, quand même 80%, est une population de patients en soins sans consentement. Et encore une fois, et ça, moi, je trouve quand même vraiment c'est quelque chose d'important, c'est pas la modalité d'admission, je veux dire, en termes de parcours de soins du patient avant d'arriver dans l'unité qui détermine le port du pyjama. Ce qui veut dire quand même que il y a quand même une référence clinique au port du pyjama. Après, on est bien d'accord, les justifications là que je vais vous présenter maintenant, elles sont tout à fait discutables. Encore une fois, c'est le fruit entre guillemets d'un brainstorming entre plusieurs soignants pour dire bah voilà, nous on le fait dans ce cadre-là. Alors, ce qui revient le plus souvent, c'est les antécédents de fugue connus, c'est-à-dire le patient qui est connu pour fuguer. Effectivement, c'est une justification que nous retrouvons dans un tiers des cas comme étant un motif de port du pyjama. Pareil, ce que nous retrouvons aussi en deuxième et troisième position, c'est le risque suicidaire. Donc ça, je dirais que c'est quand même plutôt rassurant, et moi ça me paraît plutôt cohérent cliniquement, d'autant que, pour rappel, hein, vous savez qu'il y a tout nous avons un universitaire sur l'établissement qui a beaucoup œuvré dans le champ de la prévention du suicide, et donc je pense que ça lui ferait plaisir de voir ces résultats. Bien sûr, il y a le contexte somatique particulier, à savoir effectivement qu'il n'est pas rare que nous retrouvions dans la population qui est hospitalisée sur le Binatier des comorbidités avec des états psychiatriques, mais aussi des états somatiques particuliers, par rare que nous ayons effectivement des patients qui soient aussi décompensés sur le plan somatique. Et puis après, on retrouve beaucoup d'autres justifications. Alors je ne sais plus, j'ai plus en tête le nombre de justifications, mais enfin c'est assez important. Et donc on retrouve par exemple les sorties de chambres de soins intensifs ou de chambres d'apaisement qui sont un contexte qu'on retrouve comme pouvant justifier le port du pyjama, la question du trouble des comportements, et puis les antécédents suicidaires ou à risque. Donc encore une fois, hein, c'est pas du tout, c'est pas, ça n'a pas valeur de vérité, hein. C'est juste en tout cas que sur les 5 unités des 3 pôles adultes, voilà les justifications qu'on retrouve pour le port du pyjama. Alors, ensuite, il était important de donner la parole aux patients, hein, et donc de connaître un petit peu leur point de vue sur le port du pyjama. Donc vous voyez un petit peu, là, connaissez-vous les raisons pour lesquelles vous êtes en pyjama? Donc 36% disent très clairement qu'ils disent ne pas le savoir ou font des suppositions. Un tiers associe le port du pyjama à la notion de fugue ou d'interdiction de sortie et 4 à la notion de soins sans consentement. Et puis 4 indiquent que c'est leur choix. Alors on est bien d'accord que là on est dans la population de patients à qui on a prescrit le pyjama et c'est un petit peu voilà, ces 4 patients qui nous ont un petit peu interrogés pour la suite du travail. Ensuite, il est intéressant de leur demander est-ce que cela les gêne de porter le pyjama. Alors là, on voit que, bon, un patient sur deux dit que ça ne le gêne pas, enfin, ça veut dire qu'il y en a un sur deux aussi qui dit que ça le gêne. Hein, voilà, donc tout dépend comment on tourne les choses. Il y en a quand même 40% parmi ceux-là qui disent que c'est clairement gênant quand même, hein, et qu'il y en a en gros 10% qui disent que c'est plus nuancé. Pareil, hein, donc par rapport à ce que vous disiez, donc en gros, qu'est-ce qu'ils disent ceux qui disent que c'est gênant? Alors ils disent qu'ils préfèrent dormir en caleçon la nuit et en jean la journée, n'aiment pas être en pyjama, je suis à l'aise, je voudrais un t-shirt à moi, hein, donc ça rejoint aussi ce que vous disiez sur le port souvent effectivement du pyjama du Binatier. Oui, je préfère mes habits, oui. Pas l'habitude, préfère dormir en caleçon la nuit et en jean la journée, ça revient. C'est humiliant, il y en a un effectivement qui l'a dit, et n'aime pas être en pyjama. Voilà, donc il y a toute une série donc, de justifications. Donc pareil, hein, ce document, si vous le souhaitez un peu plus détaillé, on pourra effectivement vous le fournir.
Vous le vendre
Nous le vendons, oui, pardon. Si vous aviez le choix, préfériez-vous un pyjama qui vous soit personnel? Et alors là, je vois qu'on a été un peu étonnés, parce que là, pour le coup, en tout cas, les patients que nous avons interrogés, il y en a 70% qui disent non. Alors après, c'est toujours pareil, hein, ça se trouve, si on recommence dans un an, peut-être qu'on en aura 80% qui diront oui. Hein, je crois que là-dessus, c'est moi, à mon avis, il y a quand même, c'est plus une position institutionnelle qu'il faut avoir plutôt que se baser uniquement là sur ce chiffre-là. Et donc, il y en a quand même un tiers qui disent oui. Hein, donc, il y en a un tiers quand même qui souhaiterait avoir leurs effets personnels. Et pour vous, être en pyjama fait-il partie des soins? Alors là, c'est à peu près kiff-kiff. 55% disent oui, 45% disent non. Donc on voit que c'est très partagé. Donc je pense que si on interrogeait aussi les soignants sur cette question-là, je pense qu'on aurait aussi des avis extrêmement divergents. Alors du coup, on voulait justement vous présenter alors voilà, cette population qui est apparue beaucoup plus importante que celle qu'on avait pu observer sur les trois premières phases de cette évaluation de cette EPP, à savoir que on s'est intéressé à la population qui portait volontairement le pyjama. Et en fait, on s'est aperçu quand même alors, on n'est plus que sur trois unités, mais que quand même sur ces trois unités, on est tombé sur 11 patients donc, qui portaient volontairement le pyjama, ce qui représente quand même 18% des patients hospitalisés. Ce qui veut dire qu'en fait, si on fait le parallèle avec le pourcentage de patients à qui on prescrivait le pyjama, on retrouve à peu près le même pourcentage. Alors il y a certainement un biais lié aux unités. Là, pour le coup, forcément, en fonction des unités qu'on interroge, il y a des unités d'entrée qui ont par moment plus de patients peut-être au long cours que d'autres. Et c'est un petit peu ce qui va ressortir dans les chiffres qu'on va vous transmettre. Parce qu'en gros, on voit que 73% d'entre eux peuvent sortir librement là dans le parc. Ce qui veut dire qu'on n'est plus du tout dans les mêmes chiffres en fait que sur la population à qui on prescrivait donc, le pyjama. Que en fait, il y en a quand même 62%. Donc ils ne font pas l'objet de soins sans consentement, hein, ce qui veut dire qu'ils sont majoritairement en soins libres. Et après, effectivement, bon, on retrouve, les justifications sont beaucoup plus variées que celles que nous avions dans la première partie. Mais surtout, voilà, juste pour pointer, en tout cas, que c'est quand même des patients qui sont en hospitalisation libre et qui peuvent sortir dans le parc. Et en fait, quand on a interrogé ces patients, on s'est aperçu que c'était probablement des patients qui étaient institutionnalisés plus au long cours. Et ce qui nous avait marqué, c'est qu'il y en avait la moitié d'entre eux en fait, qui justifiaient le port du pyjama par le manque d'effets personnels. Voilà. Et ça, effectivement, c'est pas forcément quelque chose qu'on a en tête quand on regarde justement les chiffres uniquement sur la première partie. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est clairement des patients au long cours, c'est des patients institutionnalisés depuis plus longtemps, et donc qui se démarquent finalement de la population certainement à qui les soignants prescrivent le pyjama.
Oui, ça pourrait être un jogging, comme par exemple c'est à l'UMD.
Oui, alors effectivement, alors en fait, ils sont assez surprenants, hein, cette population-là, hein, quand même, hein, parce qu'il y en a clairement qui disent que. Enfin, il y en a même un qui dit que c'est par confort, par manque de vêtements suffisants. Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est quand même c'était des patients qui étaient beaucoup en rupture familiale. C'est-à-dire que souvent, il y avait. En fait, c'est des patients isolés, et donc finalement, la seule référence, le seul contact social, c'était l'institution. Et l'institution était devenue un petit peu une forme d'identité pour eux. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a un qui dit, en gros, je porte le pyjama parce que, en gros, j'appartiens au binet. Enfin, il y a un peu cette idée-là. Voilà, on sait une population un peu particulière. Alors, conclusion. Pour clôturer un petit peu donc, cette EPP. Ce qui nous est apparu intéressant finalement, c'était qu'il y avait finalement deux populations. Il y avait celle à qui on prescrivait le pyjama, et que cette population à qui nous prescrivions le pyjama était plutôt une population donc, qui était en soins sans consentement, qui était probablement plutôt en début d'hospitalisation, même si il serait intéressant de savoir finalement le nombre déjà de jours qu'il reste en pyjama, et certainement par rapport à l'admission, combien de temps est-ce qu'il reste en pyjama, hein. Mais là, en tout cas, on voit que c'est plutôt une population qui est probablement lors d'un temps d'observation, c'est-à-dire durant le temps où effectivement ils sont dans les unités et où effectivement ils sont sous le regard des soignants pour un petit peu essayer d'avancer sur le plan diagnostique et puis d'avancer un petit peu sur la session de la crise. Et puis, il y a cette deuxième population, qui est donc une population plus institutionnalisée, et qui quand même, là je le répète, hein, sur la deuxième phase donc, de l'EPP, représente quand même 18% des patients que nous avons interrogés à ce moment-là. Et donc, effectivement, c'est une population qui est institutionnalisée et qui dit, en fait, en tout cas, manquer de vêtements personnels. Après, on peut s'interroger pourquoi est-ce qu'il manque de vêtements personnels, pourquoi est-ce qu'effectivement, on n'arrive pas à les faire sortir pour, effectivement, qu'ils achètent des vêtements. Hein. On peut se poser toute une somme de questions. Voilà, enfin tout ça pour dire en tout cas que c'est vraiment un partage d'expérience entre plusieurs unités et qu'effectivement il serait intéressant voilà, de répéter cette EPP dans le temps, certainement d'en préciser certaines choses, notamment probablement la durée de jours durant lesquels la personne porte le pyjama. Et puis certainement qu'il y a un phénomène là qu'on n'a pas du tout exploré, qui est celui du port du pyjama du vignettier versus le pyjama personnel. Parce que ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui fait débat. C'est ce que je vous disais avant de démarrer. De garde aux urgences dimanche, il n'y avait plus de pyjama disponible sur tout l'établissement. Et la veille, avaient été refusés les effets personnels aux patients. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé nous-mêmes finalement presque piégés à notre propre règle, puisque finalement on avait interdit les affaires personnelles, mais on n'était pas fichu d'en proposer. Voilà, donc ce qui mettait un petit peu tout le monde en défaut. En tout cas, c'est vrai que c'est en tout cas une question qui est extrêmement importante et je crois qu'il doit toujours rester quand même extrêmement présente à l'esprit des soignants. Et se dire que quand on a des patients en soins sans consentement, ils sont quand même dans une très grande vulnérabilité à notre égard et que le pas entre finalement quelque chose qui s'apparenterait, je pense d'une certaine manière, de notre part à la maltraitance et le soin, à mon avis, la barrière elle est assez fine et ça je crois vraiment qu'on doit vraiment garder une très très grande vigilance en tout cas par rapport à tout ça. Voilà, merci.
En t'écoutant, je me disais aussi que est-ce que tout le monde a un pyjama chez lui ? C'est assez passé de mode, le pyjama. Et finalement, on vient leur imposer quelque chose dont ils n'ont pas du tout l'habitude. Alors, moi, je voulais juste compléter les propos de Nicolas Mage. Je ne vais pas reprendre les chiffres de l'EPP. Il se trouve qu'on a fait, il n'y a pas longtemps, on a distribué un questionnaire sur la promotion de la maltraitance. On parlait tout à l'heure d'atteinte à la dignité. Et juste trois chiffres en plus, alors c'est pas tellement pour les chiffres, c'est leur interprétation qu'on peut en faire, qui m'ont un peu, je vous les livre comme ça. On a posé trois questions parmi d'autres. Est-ce qu'une réflexion est menée sur la restriction de liberté dans votre unité, notamment il y avait la question du pyjama. La première chose qui m'a surpris, c'est que finalement, on nous dit qu'il y a une réflexion que dans 51% des cas. En cumulant les oui et les plutôt oui, ce qui est quand même un peu bas dans un établissement où la restriction de liberté, c'est quand même quelque chose qui nous préoccupe tous les jours. Et puis surtout, en analysant strate par strate, alors par tranche d'âge ou par ancienneté professionnelle, ce qui revient à peu près au même, je me suis, de 18 à 24 ans d'âge, 77% par des interrogés disent oui, on réfléchit. Et plus on avance en âge, ou plus on avance en expérience, de 18 à 24 ans, on est à 77, à plus de 55 ans, on n'est plus qu'à 45%. Si on prend l'expérience professionnelle, on démarre à 75%, à plus de 10 ans, on n'est plus qu'à 43%. On retrouve à peu près les mêmes chiffres et cette même progression sur la contention, sur l'isolement. Du coup, je me dis, est-ce qu'on s'habitue à ces phénomènes ? Est-ce que finalement, on ne les voit plus ? Ou est-ce que ça interroge plus les jeunes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça ? Il y a sûrement des trois, mais c'est quelque chose qui, à mon avis, est à creuser sur cette espèce d'effacement de la réflexion sur les restrictions de liberté. C'est tout. C'est tout.
Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est les gens qui sont démunis, souvent psychotiques, en rupture familiale, rupture sociale, qui arrivent chez nous souvent dans des états d'incurie énormes, à qui on va prêter, entre guillemets, du linge, et pour justement ne pas les laisser en pyjama. Mais finalement, on se rend compte que si on les laisse en pyjama, il y a quand même une revendication dans le sens où c'est vécu comme une punition. Et nous, des fois, ce qui nous pose question dans le service, c'est qu'on va leur prêter du linge, puisqu'on a une espèce de lingerie de dépannage, qui vont facilement troquer contre la cigarette, la drogue, et vont se retrouver à nouveau dans le pyjama. Enfin, je veux dire, le vêtement aussi, ce côté pervers de troc, de psychiatrique, qui permet aussi quelque chose de pas très, rigolo.
On s'était aperçu à un moment, que... il y avait du troc aussi de vêtements contre pyjama pour pouvoir mieux se soustraire aux soins.
Une question pour Madame Brami. Comment sont reçus vos rapports dans les institutions hospitalières? Parce qu'apparemment, c'est quand on pratique le pyjama qui est quotidienne, et alors que vous, dans vos rapports, vous montrez cette pratique du doigt en disant qu'elle est plutôt stigmatisante et nuisante pour la personne.
Mais alors, nos rapports ne sont pas sur le pyjama. Hein.
Non, mais peut-être que
Nos rapports, c'est ce que j'étais assez rapide parce que je ne voulais pas emboliser mon intervention sur le fonctionnement du contrôle général. Nos rapports, si vous allez sur notre site, vous verrez que un rapport, par exemple, sur un établissement hospitalier, décrit l'ensemble de l'établissement hospitalier. C'est-à-dire décrit secteur par secteur les unités, décrit tous les intervenants, c'est-à-dire décrit aussi bien la restauration, la lingerie, les aumôniers, l'UNAFAM, toutes les institutions qui participent à la vie de l'établissement hospitalier. Donc on décrit, donc nos rapports font 120, 130, 140 pages pour un établissement. Bon là, pour le Vinatier, on n'a pas fait l'ensemble du Vinatier. Je vous ai dit, on a fait l'UMD, on a fait l'UHSA, on a fait l'UMA, donc c'était des rapports un peu plus modestes en pages. Mais quand on fait un hôpital, l'hôpital de Bonneval, par exemple, ou l'hôpital de Dinan, on fait tous les secteurs, donc aussi bien les secteurs de l'admission que les secteurs de pédopsie, que quand il y a des lits d'hospitalisation. Donc on décrit l'ensemble des unités, on décrit tout le fonctionnement, c'est ce que je vous ai dit, l'état, le fonctionnement, l'organisation d'un hôpital psychiatrique. Donc tout ce qui concerne aussi bien la protection juridique des patients, la restauration, la lingerie, voilà. Donc on décrit les chambres d'isolement, on décrit le protocole de chambres d'isolement, le protocole de contention, l'occupation des chambres d'isolement, donc on fait des rapports sur tout. Bon, dans chaque unité, puisque dans un hôpital, par exemple, j'imagine un hôpital qui n'existe pas, où il y a trois secteurs et chacun a deux unités, donc il y a six unités. Dans chaque secteur, ça va être différent. Vous avez, par exemple, vous pouvez avoir un recours à l'isolement et à la contention très important dans un secteur et très faible dans l'autre. Donc on va décrire secteur par secteur ce qui se passe. Et puis, par exemple, par contre, la procédure d'admission, on va décrire la procédure d'admission, on va décrire l'audience avec le JLD, on va décrire comment est faite la notification des droits aux patients. Alors, pareil, la notification des droits aux patients, elle va être différente d'un secteur à l'autre. Voilà. Donc, et après, on fait une conclusion générale en disant voilà ce qui marche bien et voilà ce qui ne marche pas. Alors, par exemple, sur le pyjama, là aussi, vous avez des secteurs qui ne fonctionnent pas de la même façon. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ce sont des prescriptions médicales, et vous avez des médecins qui, par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, la durée de l'observation, elle varie d'un secteur à l'autre. Si vous avez un médecin-chef dans l'hôpital dont je parlais tout à l'heure, où c'était 15 jours, c'était dans un secteur et pas dans l'autre. Puisque chaque secteur fonctionne de manière autonome. Donc, pour un hôpital, on décrit chaque secteur l'un après l'autre. Alors, le suivi, effectivement, pardon. Donc, la procédure est la suivante. Quand on fait une visite, on envoie d'abord un premier rapport qui s'appelle le rapport de constat au directeur de l'établissement hospitalier pour voir si on a fait des erreurs factuelles. Donc, c'est, si vous voulez, un état des lieux pour être sûr qu'on se base, on n'a pas fait d'erreur de fond sur la description du fonctionnement. Donc, le directeur a 6 mois, on envoie un mois après notre visite, normalement, quand on travaille bien. Et ensuite, le directeur a 6 semaines pour répondre à ce rapport de constat. Et il va donc corriger les fautes qu'on aurait pu faire sur la description des choses. Ensuite, ce rapport s'appelle le rapport de visite. et donc il est agrémenté des observations que les contrôleurs font. Donc on n'a pas de pouvoir d'injonction, on ne peut pas dire il faut pour voir le poste de médecin généraliste au sein de l'hôpital. Mais ce serait important qu'il y ait un médecin généraliste qui s'occupe des secteurs de psychiatrie. Voilà. Mais on n'a pas de pouvoir d'injonction, on a un pouvoir de recommandation. Donc il y a le rapport de visite qui décrit tout ce que je viens de raconter, plus les recommandations qu'on transmet au ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, il a ensuite 2 mois pour nous répondre. Bon, en général, il répond au bout de 2, 3 mois. Et ensuite, au bout d'un an, le rapport se trouve sur le site dont je vous ai parlé tout à l'heure, cgepl.fr. Pourquoi ce délai ? Pour donner le temps aux établissements pour se mettre en conformité avec les observations du ministre de la Santé, enfin, qu'on a faites, que le ministre de la Santé va mettre en œuvre ou pas. Alors, je répète, ce sont des recommandations. Alors, il y a des établissements qui, on le sent, de manière intuitive, après à la fin de notre semaine ou de la quinzaine de présence dans un établissement, on fait une réunion de restitution avec le directeur de l'établissement hospitalier, le président de la CME et 2 ou 3 personnes, et on voit bien, on dit les premiers constats qu'on a faits. Bon, il y a des choses, on sent bien que le directeur s'en empare et dit tout de suite, même avant de recevoir le rapport, on sent que le directeur s'en empare et qu'on sent que ça mobilise un certain nombre de choses et que les choses vont bouger. Puis il y a des endroits où on sent que ça n'intéresse personne, pour vous dire les choses. Bon. Et il y a même des endroits que je ne citerai pas où le directeur ne répond même pas au rapport de constat. Bon, bah, s'il ne répond pas au rapport de constat, c'est clair que rien ne va changer. Bon, ça, on a su par la bande, parce qu'on a des gens qui nous étaient au courant, que quand le directeur a reçu le rapport, il a dit que c'était un rapport à charge, alors que ce n'est jamais le cas. Bon, il y a des choses dont on dit que c'est bien, d'autres dont on dit, voilà, on dit parfois que ce sont des bonnes pratiques, et que justement, ce serait intéressant qu'elles soient... on dit au ministre, voilà une bonne pratique, ce serait intéressant qu'elle soit généralisée. Et donc, on ne fait jamais, ce n'est pas notre travail de faire un rapport à charge. On a aussi une mission de prévention. Donc, quand il y a des choses qui sont intéressantes, on le dit. Et il y a des rapports pour lesquels le directeur de l'hôpital ne répond pas. Donc, évidemment, rien ne va changer, puisqu'il ne répond pas et que manifestement, ça ne l'intéresse pas. Donc, après, dans les rapports annuels dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc depuis 2008, il y a des rapports annuels qui sortent chaque année. Il y a un chapitre très important qui s'appelle le suivi des recommandations. Et donc, par catégorie d'établissement, bon, prison, centre éducatif fermé, commissariat, hôpitaux psychiatriques, prison, je l'ai déjà dit, le contrôleur général fait état des améliorations qu'on a pu noter. Bon, je donne un exemple qui touche directement les hôpitaux psychiatriques. On avait fait une première recommandation, c'était sur le CHS de Limoges en 2009, qui concernait déjà à l'époque le fait qu'on demandait, M. Delarue demandait la mise en place d'un registre sur la contention et l'isolement. Ça date de 2009. Donc chaque fois qu'on a fait un rapport sur un hôpital psychiatrique depuis 2009, on demandait qu'il y ait un registre de contention et d'isolement depuis 2009. Il a fallu attendre la loi de modernisation du système de santé du 26 janvier 2016 pour que cette recommandation du contrôleur général vienne dans une loi. Et donc, depuis le 26 janvier 2016, tous les établissements de santé doivent mettre en place un registre d'isolement et de contention. Bon, je sais que c'est toujours pas le cas ici. Bon, maintenant... Je sais.
Bon. Non, au mois de mars.
Bah oui, mais il n'y a pas besoin de décret d'application. Hein. Bon, donc... Je ne dis pas ça pour le Vénatier. Je dis de manière générale, voilà, il a fallu attendre 2016, ça fait depuis 2009, on demande qu'il y ait un registre d'isolement et de contention dans chaque établissement de santé. Bon, voilà. Donc, maintenant, c'est fait, c'est bien, on est content. Maintenant, il faut que les établissements le mettent en place. Voilà. Donc, dans chaque rapport, il y a des choses qui sont de niveau national, comme le registre d'isolement et de contention. Et puis, il y a des rapports. Allez sur notre site, vous verrez mieux en regardant un rapport ce que je veux dire.
Il y a les suivis par l'ARS aussi.
Oui.
J'avais une question par rapport au port du pyjama, puisque en fait c'est l'intitulé de votre intervention. Et je ne comprends toujours pas, après vous avoir entendu, à quoi ça sert de porter un pyjama. Parce que vous me dites, par exemple, que les gens qui sont suicidaires, ils sont dans un espace où ils ne sortent pas. Pourquoi ils ont besoin d'un pyjama ?
Non.
quoi ça sert?
Oui. Alors, moi, je vous parle de mon expérience. Hein. J'ai pas, encore une fois, hein, c'est pas, y a pas de. Ce ne sont que des justifications. Ça n'a pas vertu à convaincre les gens. C'est vraiment une photographie à un moment donné. Pour ce qui est du risque suicidaire, c'est pour éviter effectivement. Alors peut-être que c'est peut-être de la pure imagination, mais je parlais justement pour le risque suicidaire, il y a le pyjama, mais il y a surtout le kit anti-suicide qui existe sur l'établissement. Donc il y a un équivalent en fait du pyjama, mais dans une matière qui normalement permet d'éviter que la personne puisse par exemple se pendre. Après, c'est la question de tous les effets personnels. Effectivement, avec la ceinture, on peut imaginer certaines choses. Après, effectivement, hein, je pourrais tout à fait vous trouver un contre-exemple, à savoir que j'ai malheureusement été confronté à un patient qui s'est suicidé dans une flaque d'eau. Voilà, donc si vous voulez, je vous rejoins quelque part, c'est-à-dire dans le sens où effectivement, je crois que le port du pyjama, ça n'a pas vertu à prévenir en totalité les choses. Hein. Ça participe, je dirais, à éliminer là les principaux risques qui pourraient être liés, enfin à faciliter en tout cas un passage à l'acte. On imagine assez aisément que, voilà, avec une ceinture, ben, quelqu'un qui a des idées suicidaires, c'est sûr que s'il a à disposition sa ceinture pris dans un moment d'un raptus anxieux, peut-être que voilà, il va passer à l'acte. Peut-être que s'il l'a pas, du coup, ça va peut-être lui laisser le temps de penser que peut-être il y a des enfants, peut-être qu'il y a d'autres choses qui pourraient le raccrocher à la vie. Moi, c'est comme ça que je le comprends. En tout cas, c'est comme ça que je l'utilise par rapport au risque suicidaire. Voilà. Mais tout en vous disant que je connais aussi les limites. Mais comme pour antécédents de fugue, je veux dire, combien de fois on a vu des patients passer devant les gardes en pyjama et ça a choqué personne, hein, où on voit par exemple dans les bus, même dans les transports en commun, des gens avec les pyjamas et pas seulement du vinatier. Bon, globalement, ça choque personne non plus. Hein. Donc, je dirais que je crois que ça vise plutôt à limiter. Le but, clairement, c'est pas de dire ça va régler le problème du suicide, ça va régler le problème de la fugue. Après, c'est pour ça que ce que je trouve peut-être qui manque là, en tout cas dans le travail que nous avons fait, c'est peut-être l'adéquation entre justement ce moment peut-être très aigu, où effectivement on peut se dire peut-être qu'à ce moment-là, le pyjama a une justification en termes de limitation du risque, hein, et pas non plus de prévention totale et absolue, parce que ça, c'est pas vrai. Et que effectivement, combien de temps, effectivement, par exemple, par rapport à un risque suicidaire, est-ce que effectivement, quand le risque suicidaire, on a estimé qu'il était atténué, est-ce qu'il y a eu encore eu le port du pyjama pendant 15 jours derrière, ou est-ce qu'effectivement, on l'a arrêté à partir du moment où on a dit, bah, effectivement, là, les idées suicidaires sont amendées, il n'y a plus de scénario en cours. Voilà, c'est peut-être ça qu'il faudrait peut-être un peu préciser. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Moi, je pense qu'il y a la question de l'alternative au pyjama, est-ce que c'est pas une prise en charge avec du personnel, avec qu'est-ce qu'on c'est toute la question.
Sortez le chéquier.
Pardon. Non mais je crois que la question elle est là, c'est-à-dire que est-ce que plutôt que de laisser le patient en pyjama dans son coin avec ses idées suicidaires, moi je pense que évidemment, et c'est ce que j'avais la chance de faire quand j'étais plus jeune et qu'il y avait plus de personnel, c'est évident que c'est plutôt que de le mettre en pyjama, c'est plutôt d'avoir une prise en charge contenante avec une activité, avec une présence, avec le savoir-faire de la psychiatrie par rapport aux patients en détresse. C'est évident, pour moi, c'est évidemment ça la réponse.
Docteur Burnot.
Bien. Burnot, donc psychiatre. Je vais un peu détonner, mais je trouve le titre de votre table ronde au bord de l'insulte pour un praticien. Je ne vois pas au nom de quoi une prescription médicale serait une punition. Où peut-on trouver une telle idée, si vous voulez? Je crois que sur l'indication du pyjama, les infirmiers de ce matin ont été assez clair sur les indications que ça pouvait poser. On parle aussi de justification d'une décision médicale. Je ne justifie pas si je mets tel neuroleptique ou tel autre. Je ne justifie pas si je laisse la famille entrer ou pas. Je ne vois pas au nom de quoi quelque chose qui est de l'ordre d'une décision médicale centrée sur une connaissance de soins devrait être justifiée et pourrait passer pour une punition.
Moi, j'ai pas une punition, j'ai dit atteinte à la dignité.
Alors, oui, et je pense qu'il y a d'autres, d'autres façons d'atteindre la dignité des patients que de les mettre en pyjama.
Alors, peut-être qu'il faut que... Je vais me permettre de répondre parce que
c'est... Dernière chose, par rapport à la chose que vous avez dite à la fin et que je partage tout à fait sur l'idée qu'on peut être trois fois proche de la maltraitance dans l'exercice de nos fonctions, je pense que c'est une question que tout praticien se pose tous les jours, ça s'appelle la déontologie, et je pense que tous les jours, on doit se poser la question, en effet, de jusqu'où va notre pouvoir par rapport aux patients. Ça, je suis pleinement d'accord avec vous. Mais pas dans des pratiques où je devrais me justifier une mise en pyjama qui, pour moi, est une indication médicale, comme ça a été dit ce matin.
Peut-être juste pour le titre, c'est moi qui suis responsable de ce titre, donc je vais peut-être l'expliquer. J'avais proposé ce titre, alors déjà pour un petit peu choquer forcément, mais aussi parce que finalement quand on a fait cette EPP, c'était aussi à destination des proches de patients et aux patients eux-mêmes qui utilisent souvent, en tout cas moi j'ai souvent entendu ce mot punition dans cette prescription. Moi je suis bien convaincu que c'est pas une punition, hein, mais c'était plus comme, voilà, c'était un terme qui était utilisé par les proches, par les patients. C'est plus dans ce sens-là que je l'avais proposé, d'autant qu'en fait, pour tout vous dire, je savais pas qui allait constituer le public, et notamment je ne savais pas s'il allait avoir des proches et des patients, ou effectivement une assemblée essentiellement de soignants, même si effectivement ça a quand même aussi vertu à faire réagir, parce que c'est quand même quelque chose qu'on entend beaucoup dans notre pratique. Et encore une fois, cette EPP, elle est aussi destinée, hein, c'est ce que je disais au départ, à essayer quelque part d'être transparent, hein, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des patients, et pour essayer justement de sortir peut-être de l'idée qu'ils ont par rapport à ça. Mais pour autant, encore une fois, ce n'est pas de convaincre les gens que c'est une bonne chose. Mais ça permet quand même de s'apercevoir, en tout cas, qu'effectivement, moi, je trouve que là, justement, on voit bien qu'il y a des vraies indications médicales derrière et que ça concerne quand même une population précise. Maintenant, encore une fois, ce qui serait intéressant, c'est quand même de voir pendant combien de temps, la durée du port du pyjama, c'est peut-être ce qui manque là, en tout cas, dans cette EPP.
Je crois que s'il y a des contrôleurs de liberté, c'est que quelque part ça existe. Peut-être pas ici. Je suis expert visiteur pour la Haute Autorité de Santé, j'ai reçu à plus de 50 visites. Il y a des établissements, j'en ai vu, où le pyjama, c'est une punition. Et ça existe aussi.
Oui, alors. Je trouvais que c'était très intéressant cette étude au niveau qualitatif. Alors quand je dis qualitatif, c'est pas dire sans chiffres. Je trouve que ce sont des bonnes pistes de travail, des bonnes pistes d'hypothèses de travail. Et en aucun cas, me semble-t-il, du point de vue de la méthodologie de la recherche, de statistiques à faire sur des échantillons si faibles. Je suis très très choquée de voir des pourcentages faits sur des échantillons de 13 personnes. Au niveau de la méthodologie de la recherche, c'est absolument pour moi un non-sens, c'est pas pour moi, mais au niveau des statisticiens. Et je suis d'autant plus questionnée que j'entends que cette étude va être répétée dans quelques temps, et donc on va s'amuser à comparer des chiffres statistiques d'un échantillon de 50 personnes ou 60 personnes à un autre. Ce qui voudrait dire qu'au niveau des statistiques et des différences significatives pour pouvoir parler de ces chiffres, il faudrait qu'il y ait au minimum 25% d'écart entre chaque pourcentage pour que ça ait du sens statistique. Donc je voulais juste vous proposer, si vous en étiez d'accord, pour que cette étude soit validée et pas utilisée telle quelle au niveau des pourcentages, par exemple par madame, que vous complétiez votre échantillon pour arriver à une cellule significative d'environ 80 personnes minimum, ce qui est requis, et pour pouvoir ensuite comparer et surtout faire ce que vous avez fait, des comparatifs de sous-population au sein d'échantillons très faibles, ce qui encore est un non-sens. Je suis désolée, je suis un peu agacée, mais il me semble que pour avancer des chiffres, il faut être béton sur les échantillons. Et quand je vois dans les conclusions, il y a marqué 50% sans reciter les bases, que monsieur, vous commentez des statistiques sur des réponses de questionnaires en intra, sans donner encore les bases de nombre de personnes qui ont répondu, et en faisant des sous-échantillons effectivement catégoriels entre les professions, l'âge, etc., je ne saurais trop vous conseiller d'avoir, au niveau de la méthodologie de la recherche, quelque chose qui tienne la route. C'était, voilà, juste alors, ça.
Moi je vous réponds très clairement, ce n'est pas une étude scientifique. L'évaluation des pratiques professionnelles telles que validées par la HAS porte sur des faibles échantillons, c'est tout à fait permis. Ça n'a rien à voir avec des statistiques, ce sont des chiffres. C'est une EPP, ce n'est pas une recherche scientifique.
Effectivement, hein, toutes vos remarques sont très justes hein, sur un plan effectivement statistique et scientifique. Maintenant, je voulais juste rappeler ce que j'ai dit au début de ma présentation. Ça n'a pas vocation à être publié dans aucune revue, quelle qu'elle soit, et que le but de la démarche qualité, c'est plus à un moment donné de faire une photographie qui peut permettre une réflexion par rapport à un phénomène donné. Là, en l'occurrence, on parle du port du pyjama. Donc là, l'idée, ce n'est pas de dire que tel ou tel pourcentage, est-ce qu'il y a une différence significative, parce que je crois qu'à aucun moment dans mon propos, j'ai parlé de différence significative. Hein. J'ai fait aucun écart par rapport à telle ou telle pratique. D'accord. Donc, encore une fois, on est plutôt du côté observationnel. Hein, on n'est pas en train de comparer des échantillons, c'est de l'observationnel. Et encore une fois, ce n'est pas une recherche, ça n'a pas vocation à être publié. C'est une photographie, c'est pour ouvrir des débats. Et ça permet aussi, à un moment donné, voilà, d'être un peu transparent voilà, dans nos pratiques.
Merci à tous pour cette intervention.